connaissez l'adage romain qui dit, je vais essayer de pas me tromper, verba volent, scripta manent, ce qui veut dire les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc, en ce temps du carême, je vous propose un petit effort à faire, au moins jusqu'à Pâques, de sortir un papier, un crayon, ou votre Magnificat, ou votre iPad, mais de pouvoir marquer quelque chose de ce qui se passe à la messe, pour pouvoir ressortir avec une parole de Dieu. Sinon, on écoute, c'était super, mais j'ai tout oublié, quoi. Je me souviens plus bien. Et donc, je vous invite vraiment à sortir un crayon ou votre téléphone portable. Pour une fois, vous avez le droit de le sortir. Non pas pour écouter les messages. Hein. Et si vous dites, c'est trop difficile, hier, j'ai dit la même chose, et à la sortie, j'ai une petite fille de 7-8 ans, elle m'a apporté une page recto verso, avec des couleurs. Alors, j'ai pas bien compris le sens des couleurs, mais il y a presque toute mon homélie là-dessus. Alors, je vais pas vous le lire, sinon vous allez copier. Donc, c'est pas l'objet, vous n'avez pas le droit de copier. C'est qu'est-ce que le bon Dieu me dit? Et donc, vous n'écrivez pas tout ce que dit le bon père, on s'en fiche. Mais qu'est-ce que Dieu me dit à travers cette parole? Un petit garçon, il m'en a donné un papier, mais il a dit que c'était tellement important, il voulait le garder. Il a dessiné un bonbon, et il a marqué juste Abraham. Il avait 5 ans. Au moins, il a retenu quelque chose. Ça parle d'Abraham. Donc, j'espère que tout le monde a son crayon, son papier, son iPhone, son iPad, etc. Et si vous n'en avez pas, vous achèterez ça. Et vous verrez que grâce à ça, la messe sera moins ennuyeuse. Une petite expérience commune, et qui je crois est essentielle, que vous avez fait, jeune ou moins jeune, c'est celle où il est tard, je suis allongé dans mon lit, je somnole, il est vraiment tard, et j'attends. Alors si vous êtes marié, j'attends mon mari ou ma femme, voilà, la joie de se retrouver, d'échanger, peut-être pas parce que je suis fatigué, donc je ne vais pas pouvoir parler, ça sera demain, mais la joie de retrouver celui que j'aime. Ou pour les enfants, c'est l'attente de ma mère qui doit rentrer et qui m'a promis, elle me l'a promis, qu'elle viendrait m'embrasser quand elle rentrerait, et je suis là et j'attends qu'elle arrive et qu'elle vienne m'embrasser. Ou alors c'est mon père qui rentre d'un voyage et il a envoyé un petit SMS ou un petit mail où il dit « Je t'ai rapporté un petit cadeau » et donc j'attends le petit cadeau avec impatience. Ou alors, c'est peut-être la veille de Noël, vous attendez de voir enfin l'enfant Jésus qui dépose les cadeaux dans la crèche. Mais voilà, le temps d'attente dure, et voilà que le voleur, le sommeil, vous saisit, vous vous endormez. Et donc, la personne arrivera, mais vous ne le saurez pas. Votre mari, votre femme viendront. Votre mère viendra vous embrasser, votre père viendra déposer ce petit cadeau, mais vous, vous serez dans les bras de Morphée. Eh bien, je crois que la Bible, vous voyez, elle est ce lieu où l'histoire du salut se fait, et qui est une histoire où l'homme a quelque chose à faire, mais qui est aussi traversée par tous ces sommeils, où Dieu plonge l'homme dans un sommeil, pour faire le salut, parce qu'il y a des choses que l'homme ne doit pas savoir, que l'homme ne peut pas connaître, que l'homme ne peut pas comprendre, que l'homme ne peut pas supporter. Et comme on endort le malade pour l'opérer, il est bon que Dieu fasse tomber ce sommeil pour que, en cachette, en secret, Dieu vienne retirer telle chose, avancer sur tel élément. Et puis ça dit aussi cette magnifique chasteté du don de Dieu qui la plupart du temps se fait dans le secret. Nous ne le verrons qu'au ciel. Nous verrons à quel point Dieu a été présent dans nos vies. Et souvent nous nous plaignons que fait-il? Il n'est pas très actif tout de même, vraiment. Ce n'est pas une bonne recrue. Si, si, c'est une bonne recrue. Il est bien actif, il fait parfaitement ce qu'il faut faire, mais souvent dans le secret. Et donc je voudrais reprendre quelques lieux de la Bible, nous voyons ce sommeil divin qui tombe sur l'homme. et les reprendre dans un certain ordre pour montrer comment ça traverse toute notre vie et cela nous construit. Alors, il n'y aura pas 3 points, mais pour une fois, il y en aura 6. Mais normalement, ça ne va pas durer 2 heures tout de même. Première étape, c'est l'étape de la création. Vous vous souvenez, Genèse chapitre 2. Voilà que Adam, l'homme solitaire, l'homme qui nomme les animaux, n'a pas la personne qui lui convient, n'a pas ce soutien qu'il désire. Et voilà que Dieu le plonge dans un sommeil, et lorsqu'il se réveille, l'homme solitaire, voilà qu'il se trouve face à une personne comme lui, une personne fragile comme lui, une personne capable d'aimer, une personne aimable, et en même temps une personne différente de lui. Oh oui, elle est bien différente, cette autre, psychologiquement, physiquement, par bien des points. Et voilà que par ce sommeil, Dieu protège cette relation, les uns avec les autres, cette relation aussi dans le cadre conjugal. Il y a comme un secret. Je n'ai pas entièrement ma mise sur l'autre, et heureusement. Et en même temps, ce secret est là aussi pour venir le percer, pour venir le découvrir, pour désirer entrer dans cette intimité avec l'autre. Mais avec respect. Sommeil de la création. Deuxième étape, c'est celui que nous avons entendu dans la première lecture, au chapitre 15 de la Genèse. C'est le sommeil de l'alliance de Dieu avec les hommes. Abraham, la figure du croyant, le père des croyants, comme dit son nom, eh bien le voilà qui est saisi d'un sommeil pour recevoir ce don de Dieu, ce don gratuit. Tu recevras une terre promise. Et à nous aussi, Dieu nous promet une terre promise. Une terre qui comblera, et même au-delà de nos désirs, ce que nous voulons. C'est comme une annonce de ce que sera le paradis, ultimement. Et il est saisi de crainte devant la grandeur de ce don gratuit. Création, amour, alliance avec Dieu. Troisième lieu, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 26, le roi David, ce roi David qui a été le serviteur de Saül, qui s'est battu pour lui, qui a tué Goliath, qui a tué les ennemis d'Israël, et voilà qu'il est persécuté par Saül, Saül qui est pris de folie, Saül qui est jaloux, Saül qui veut la mort de David par tous les moyens. Et voilà que, alors que David s'est enfui, voilà qu'il se dit, il faut en finir, il faut tuer Saül, je n'en peux plus d'être un exilé. Il dit même, je suis un exilé et c'est comme si j'avais perdu le Seigneur, puisque je ne suis plus sur la terre donnée par Abraham, c'est comme si j'avais renié la foi du Seigneur. Alors il va dans le camp de Saül et Dieu fait tomber un sommeil mystérieux, toujours le même mot, tardema en hébreu. Et il tombe sur Saül qui dort. L'armée est immense, mais tout le monde dort. Dieu veut qu'ils dorment tous. Que va-t-il faire, David ? Et à côté de Saül, il y a la lance qui est plantée dans le sol. Il y a la gourde de Saül. Et Avner, le général de David, lui dit, c'est simple. Prends la lance, tu l'enfonces dans sa tête et c'est fini. Tu prendras sa place, tout le monde te suivra. Il est devenu fou. Et David dit non. Il est loin de Dieu. Il est celui que Dieu a choisi. Je ne ferai pas cela, même s'il me persécute. Et il prend la lance, il prend la gourde, il va de l'autre côté de la montagne et il appelle Saül, Saül. Tout le monde se réveille. Il dit, regarde, où est ta lance et ta gourde? Je l'ai prise, j'aurais pu te tuer, je ne l'ai pas fait. C'est le pardon, le sommeil qui tombe sur Saül et pour David l'occasion de pardonner à celui qui le persécute et qui va continuer à le persécuter. Mais ce qui est beau, c'est que même là, Saül est obligé de reconnaître la justice de David, de reconnaître son propre péché, sa propre folie, de reconnaître que Dieu fera certainement quelque chose de grand de David. Comme dit Jean-Paul II, hein, l'homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il pardonne. Voilà, ce voile que Dieu met pour que nous puissions pardonner. Quatrième lieu, le silence de Dieu, Jésus qui dort. Vous vous souvenez, par exemple, dans Marc au chapitre 4, il est dans la barque, sur un petit coussin, il a posé sa tête, c'est la tempête. Comment peut-il dormir? Pourtant, il dort. Sans doute, il est épuisé. Et ces marins qui ont l'habitude de la tempête, qui savent bien que le lac de Tibériade est un lac qui est inconstant, eh bien, ils sont pris de panique. « Seigneur, sauve-nous !» Ils le réveillent. Et Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous peur ?» Ben, c'est clair, parce qu'on a failli mourir. « Pourquoi avez-vous manqué de foi ?» Voilà, le silence de Dieu dans nos vies, c'est l'épreuve de la foi. C'est Dieu qui est là, présent, mais qui reste à distance pour nous montrer la fragilité de notre foi et qui en même temps est là pour faire grandir notre foi. C'est dans l'épreuve que notre foi grandit. Cinquième lieu, eh bien, c'est l'évangile que nous avons entendu, la transfiguration, le sommeil devant la gloire. Nous ne pouvons saisir toute la gloire de Dieu, elle est trop grande. Nous ne savons la comprendre entièrement, nous sommes comme Pierre. Seigneur, nous sommes bien ici, faisons trois tentes. Il ne savait pas ce qu'il disait. Et nous aussi, souvent, quand nous faisons cette expérience, nous ne savons pas très bien ce que nous disons. Cette gloire qui prépare aussi à ce sommeil de Gethsémani, qui est ce sommeil de tristesse devant la souffrance. Nous ne voulons pas voir cette souffrance, nous ne voulons pas en comprendre le sens. Et donc nous tombons dans ce sommeil de tristesse. Mais c'est un sommeil qui nous achemine au dernier sommeil. Le sommeil de la mort. Et qui n'est pas le dernier mot. Quand on entend Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, il nous dit « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Sommeil de Jésus qui prépare la résurrection, notre propre sommeil. Demandons au Seigneur de ne pas avoir peur de tous ces sommeils qui traversent nos vies, de toutes ces obscurités. Reconnaissons que nous sommes comme ces vierges qui s'endorment. Simplement, comme ces vierges sages, demandons que nous puissions préparer avec la grâce de Dieu les uns pieds sur les autres pour qu'il y ait de l'huile dans notre lampe, cette huile de la charité, de l'espérance, de la foi. Amen.